Barnave est un jeune arbre qui montera haut si on le laisse croître. Mirabeau.
Dans l'histoire. Avec Mirabeau et Danton, Barnave est un des plus grands orateurs de la Révolution française, au début de laquelle il a joué un rôle considérable. Auteur du célèbre serment du jeu de paume, artisan de la première Constitution française et fondateur du club des Jacobins, il siégea à l'extrême gauche de l'Assemblée nationale avant de devenir le conseiller occulte de Marie-Antoinette. Détesté par les partisans d'une république dont il ne voulait pas, aussi bien que par les défenseurs de l'ancien régime qu'il avait contribué à renverser, Barnave est mort guillotiné à Paris le 28 novembre 1793, victime de la terreur, avant d'être oublié par les historiens qui parlent à peine du destin étonnant de ce député de 28 ans, venu de Grenoble pour siéger avec le tiers-état aux états généraux qui s'ouvraient à Versailles le 5 mai 1789.
Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis.
Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir ?
Comment ? Les députés du tiers-état, monseigneur.
Ne rendrai-je pas hommage ?
C'est quoi le tiers-état ?
Français.
Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres.
Incomparables.
Cela fait beaucoup de monde.
Que chacun des trois ordres délibère séparément.
Pierre Damarzide, bonjour.
Bonjour,
c'était l'ouverture des états généraux le 5 mai 1789 et parmi les 1139 députés qui se trouvaient ce jour-là à Versailles, il y avait un homme, Barnave, auquel vous avez consacré une biographie qui a été publiée il y a quelques années aux éditions du Sémaphore. Barnave qui est beaucoup moins connu que quelques autres grands noms de la Révolution française comme Mirabeau, comme Danton, comme Robespierre ou comme Marat. Et pourtant, vous le dites dans votre livre, Pierre Damarzide, c'était un personnage très important dans la Révolution.
Oui, Barnave a eu un rôle essentiel parce qu'il s'est attaché à rédiger, à participer à la rédaction de la première Constitution française. Donc c'était très important dans l'histoire. Et puis comme vous l'avez souligné également, il était le meilleur orateur de la Révolution après Mirabeau. Or, à ce moment-là, l'éloquence avait une importance considérable.
Oui, elle pouvait être dangereuse, d'ailleurs.
Elle pouvait être dangereuse. On s'en servait. C'était une arme redoutable. Il y avait effectivement 1200 députés, alors que dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y en a 577. Et sur ce nombre, il n'y avait qu'environ une cinquantaine d'orateurs. Donc, ces orateurs exerçaient une sorte de dictature, particulièrement.
Alors, quand il arrive en 1789, donc, aux états généraux, c'est pas pour faire la figuration. Il a des idées bien précises dès le départ. Vous disiez tout à l'heure c'était une constitution qu'il voulait, mais c'est un peu une constitution à l'anglaise, en fait, qu'il souhaite.
Il souhaite l'instauration d'une monarchie constitutionnelle et surtout la classe à laquelle il appartient, c'est-à-dire le tiers-état, prenne le pouvoir, c'est-à-dire exerce des fonctions auxquelles l'ancien régime lui refusait jusqu'à présent. Or, il faut bien voir qu'à l'époque du jeu de paume, le serment du jeu de paume, on a changé de souveraineté. On est passé d'un état de souveraineté, de monarchie absolue qui appartenait au roi, c'était le régime de l'état c'est moi, pour une souveraineté nationale. Et ça,
on n'y est pas encore, Damarzide. Monsieur Damarzide, on va parler des états généraux. Mais d'abord, il faut rappeler aussi qu'il n'est pas seul. Hein. Il fait partie d'un groupe très très actif, très célèbre à l'époque, qu'on appelait les triumvirs et qui, comme les trois mousquetaires, étaient quatre. Hein. Il y avait Barnave qui en était le patron. Il y avait Adrien Duport et il y avait Charles et Alexandre Lamette. Lui, c'était la figure de proue de ce triumvir. Et tout de suite, ces gens-là veulent, par exemple, que aux états généraux, quand on va voter, on vote par tête. je rappelle quand même qu'il y avait trois ordres, hein, la noblesse, le clergé et le tiers-état, qui représentaient en fait la majeure partie des Français. Et si on votait par ordre, c'était le clergé et la noblesse, évidemment, qui l'emportaient. Eux, ils veulent que tous les députés votent ensemble, et surtout, ils veulent qu'ils se rassemblent. Alors, c'est à ce moment-là qu'effectivement se produisent les états, le fameux serment du jeu de paume dont vous parlez. Hein, ces gens-là, les gens du tiers, refusent de siéger, enfin demandent plutôt à l'ensemble des ordres de siéger avec eux. Ils se proclament carrément Assemblée nationale. Ils disent, puisqu'on représente 96% de la nation, on est une Assemblée nationale. Et quand le roi fait fermer la porte de leur lieu de réunion, eh bien, ils vont dans la salle du jeu de paume, et c'est là que Barnave va jouer un rôle considérable.
Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi.
On nous empêche d'entrer, ordre du roi.
C'est un outrage!
Au jeu de paume!
Oui, il a raison, au jeu de paume!
Au vestiaire, messieurs.
Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution.
Alors c'était la première grande phrase historique de la Révolution française, Pierre de Marzic, le fameux serment du jeu de paume, qui a été prononcé par Bailly, mais, je l'ai appris en vous lisant, qui a été rédigé, entre autres, par Barnave.
Absolument.
Ouais. Et il y avait aussi quelqu'un d'autre, c'est les Chevaliers. Alors on a entendu, qu'est-ce qu'ils annoncent? Une constitution.
Une constitution.
Et ça, c'est le grand œuvre de Barnave.
Alors effectivement, la Révolution, comme je le disais, c'est très important, a changé de souveraineté. On est passé donc de la souveraineté de la monarchie absolue à la souveraineté nationale. Régime maintenant de la nation veut, le roi fait. Donc, ça veut dire qu'il faut créer une constitution, revoir les institutions complètement, et à ce moment-là, il faut définir les pouvoirs du roi. Or, Barnave n'a qu'une seule crainte, c'est que l'on revienne en arrière. Donc, pour cela, il faut ancrer la révolution, l'enraciner, et il veut limiter les pouvoirs du roi, pour l'empêcher, justement, de revenir, d'un retour à l'ancien régime.
Et effectivement, c'est ces pouvoirs du roi que certains voudraient voir maintenus par un veto absolu. Lui, Barnave, il est contre.
Il est contre un veto absolu, effectivement. Ce qu'ils veulent avec ses amis, c'est faire table rase du passé. On veut en fait congédier l'histoire, qu'il y ait une rupture avec le passé et créer un ordre nouveau. C'est la proposition de Sieyès qui a les mêmes idées à peu près, c'est-à-dire que l'on crée vraiment un ordre basé sur les lumières de la raison, qui était à la mode au XVIIIe siècle.
Alors dans cette assemblée qui devient assemblée nationale, qui se proclame assemblée constituante après le 14 juillet, après la chute de la Bastille, parce que le roi a essayé de résister, il a renvoyé Necker, il y a eu la prise de la Bastille, et puis finalement le roi s'incline. Donc dans cette assemblée constituante, Barnage est une figure de proue, et il est à l'extrême gauche à l'époque de l'assemblée.
Il est à l'extrême gauche.
C'est d'ailleurs l'époque, vous le rappelez aussi, où apparaissent les notions de droite et de gauche. On n'avait jamais entendu parler de ça avant.
Oui, c'est à propos justement de la définition des pouvoirs du roi, de ce qu'on avait appelé maintenant le pouvoir exécutif, que se déterminent, apparaissent ces notions de droite et de gauche. C'est-à-dire ceux qui veulent un pouvoir exécutif faible se situent à gauche du président, siègent à gauche du président de l'Assemblée nationale, et ceux qui veulent un pouvoir exécutif fort siègent à la droite.
Parmi ceux d'ailleurs qui voulaient un pouvoir exécutif fort, il y a un homme qui était un grand adversaire de Barnave et qui siégeait justement à droite, qui était Mounier.
Mounier, qui est un ami de Barnave, il avait 3 ans de plus que lui, mais lui avait déjà peur des progrès de la Révolution. Il voulait déjà que la Révolution s'arrête très vite, au bout de 2 mois. Et c'est ce que Barnave rompt avec lui, parce qu'il pense qu'il faut aller plus loin.
Et puis entre les deux, vous citez aussi alors le rival, disons, pas l'adversaire, mais le rival de Barnave, qui était Mirabeau, hein, son rival en talent oratoire, si je puis dire, Pierre de Marzic.
Mirabeau est le grand rival de Barnave, mais lui, Mirabeau, veut un pouvoir exécutif fort, parce qu'il rêve de mettre le roi à la tête de la Révolution, d'instaurer une sorte de démocratie royale. Et là, ils vont s'affronter pendant 2 ans, et ça va durer jusqu'à la mort de Mirabeau. Mais par la suite, Barnave n'aura qu'une idée en tête, succéder à Mirabeau et reprendre en fait les idées de Mirabeau.
Oui, parce que Mirabeau, il faut le rappeler, pour des raisons d'ailleurs bassement matérielles aussi, Mirabeau travaillait secrètement pour le compte de Louis XVI et Marie-Antoinette. En tout cas, l'Assemblée constituante continue ses travaux et Louis XVI s'engage même à respecter, avant même que cette Assemblée ait fini de la rédiger, de respecter la Constitution. Il le fait sur le Champ de Mars pour le premier anniversaire de la chute de la Bastille, le 14 juillet 1790.
Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des Français.
Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi.
C'était Louis XVI à la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Alors à ce moment-là, justement, on a l'impression que la Révolution semble un petit peu terminée. La Constituante continue ses travaux. Et Barnave, donc, est un homme, on peut vraiment le dire, à l'extrême gauche de cette Assemblée. Il le montre d'ailleurs en créant, par exemple, c'est lui qui est à l'origine, je l'ignorais, du Club des Jacobins. Pierre Damarzit.
Il crée le Club des Jacobins avec ses amis Adrien Duport et Alexandre de Lamette pour en faire un instrument de propagande et d'influence, de lobbying, on dirait aujourd'hui. Ça, c'est très important.
Ça remplace les partis qui n'existent pas encore, d'ailleurs, on va dire, d'une certaine manière.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est lui qui en rédige, d'ailleurs, le règlement intérieur et les statuts. Et en même temps, ils ont un comité de correspondance qu'ils animent et qui fait passer les idées de la Révolution dans les sociétés affiliées en province. Donc c'est un instrument redoutable.
Et alors, il milite aussi, c'est vraiment en cela qu'il est vraiment révolutionnaire, pour la confiscation des biens du clergé, très anticlérical, Barnave.
Oui, disons que ça, c'est une proposition qui vient de Talleyrand. Mais c'était pour une question financière, je dirais. À ce moment-là, l'État manquait d'argent, ils avaient fait beaucoup d'emprunts, et l'Église détenait énormément, avait beaucoup de biens, et Barnave a souscrit à cette proposition.
Alors, cela dit, c'est quand même un homme un petit peu ambigu, parce que d'une part, on le voit donc à l'extrême gauche de l'Assemblée, il a même d'ailleurs une formule qui est très importante et qui fait qu'on va lui en vouloir très longtemps dans les milieux monarchistes. Je crois que c'était le 22 juillet 1789, on lui annonce la mort de deux personnes qui ont été, je crois, décapitées, et je crois qu'il a une formule terrible à ce moment-là.
Oui, effectivement, ce sont des intendants, si vous voulez, donc de régime qui vient d'être renversé, qui ont été abattus en place de grève sous les yeux du maire de Paris, Bailly. Et à ce moment-là, à l'Assemblée nationale qui est à Versailles, il y a un député qui proteste, qui dit comment, effectivement, il faudrait voter une loi martiale pour interdire cela. Et Barnave se lève en disant, mais messieurs, écoutez, on ne peut pas arrêter la révolution pour ça, il y aura bien sûr des morts. Ce sang était-il donc si pur? Oui. Et il arrive sur le devant de la scène politique. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à le découvrir. Et là, il n'a que 28 ans.
Et le
il est le plus jeune.
Oui. Ah oui, c'est vrai.
Il est pratiquement le Benjamin de l'Assemblée, on oublie.
Mais ça, cette phrase, on va lui reprocher longtemps après, ce qui fait qu'il aura toujours du mal à se rapprocher, au fond, des monarchistes.
C'est vrai, il fera peur, énormément peur, surtout à la reine. Et on le verra par la suite.
Alors, bon... D'une part, donc, il est détesté, effectivement, par les monarchistes, et en même temps, il va commencer à être suspect aux yeux des hommes d'autres personnalités d'extrême gauche. Par exemple, c'est en cela qu'il est un peu ambigu, cet homme qui est pour un pouvoir très limité pour le roi, cet homme qui fait voter suppression, la confiscation des biens du clergé, en même temps, c'est un homme assez étrange parce que il refuse l'idée même du suffrage universel, Pierre Damarzit.
Oui, parce qu'il pense que c'est prématuré, qu'en fait, le peuple français n'est pas prêt encore à assumer le vote. Il appelle ça, il faut un vote fonction et pas un vote droit. Pour lui, le vote est une responsabilité. Or, il faut une certaine éducation, une certaine instruction. Il pense que le peuple des campagnes, par exemple, n'est pas encore prêt pour cela. Contrairement aux idées de ceux qui sont influencés par Rousseau, tel que Robespierre, qui veut une démocratie, un suffrage universel, une démocratie directe même. Barnave n'en est pas encore là. Il est assez orléaniste, je dirais.
Oui, mais c'est quand même assez étonnant. Alors, chose encore plus étonnante, cet homme qui a été évidemment un ardent partisan de la Déclaration des droits de l'homme est contre l'émancipation des Noirs aux colonies. Ça, on va beaucoup lui en vouloir pour ça.
On va beaucoup lui en vouloir, notamment l'abbé Grégoire qui défend effectivement l'application des droits de l'homme dans les colonies. Mais là aussi, Barnave, il n'y est pas opposé en principe, il trouve que c'est trop tôt, là aussi, effectivement. Et puis parce qu'il défend les intérêts de la France. Il pense que si on accorde tout de suite la déclaration des droits de l'homme aux esclaves ou aux mulâtres, eh bien les colonies deviendront indépendantes, la France les perdra. Or à l'époque, c'est essentiel pour le commerce français.
C'est en contradiction avec ses principes quand même.
Oui, c'est vrai, mais il met en avant l'intérêt de la nation avant les principes, c'est-à-dire plutôt la liberté que l'égalité.
En tout cas, ça va lui valoir des sérieuses attaques de la part, par exemple, de personnages dont on a peu entendu parler encore jusqu'à cette époque. Par exemple, Robespierre. Robespierre sera un ennemi juré de Barnave.
Ah ben, Robespierre, on sait que c'est l'homme des principes. Hein. Donc, très vite, il veut se détacher de Barnave, alors qu'il le connaît. C'est un jacobin. Et donc, il va y avoir une scission. Lui, Robespierre, à un moment, si vous voulez, Barnave veut arrêter la révolution. La constitution est en train d'être achevée. Il pense qu'il est temps d'arrêter. Et Robespierre va aller plus loin. Il pense que
c'est ça qui les distingue. L'un dit il faut arrêter la révolution, l'autre, voilà. Robespierre, dit qu'il faut aller plus loin. Alors, à gauche, à l'extrême gauche, dont il ne fait déjà plus partie, on peut le dire, Barnave, on commence à se méfier de lui, et surtout lorsque, en juin 1791, Louis XVI et Marie-Antoinette s'enfuient de Paris, dans le plus grand secret, ils sont arrêtés à Varennes, et c'est Barnave, avec un autre député, Pétion, qui est allé chargé d'aller chercher le roi et la reine pour les ramener à Paris, une rencontre qui va faire basculer la vie de Barnave.
Deux envoyés avec les ordres de l'Assemblée nationale et du général Lafayette.
Ils viennent de Paris.
Laissez passer les représentants de la nation.
Sire, il y a là deux représentants de la nation qui désirent s'entretenir avec votre majesté.
Sire, à Paris, on s'égorge. Nos femmes, nos enfants, nos mères seront peut-être massacrées.
Et moi, monsieur, ne suis-je pas mère, moi aussi?
La reine.
Sire, nous apportons un décret de l'Assemblée.
En France, il n'y a plus de roi.
Frechheit!
Pour Dieu, par l'indigence! À Paris!
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Barnave.
Et c'était bien sûr la Carmagnole qui sera en fait écrite un an plus tard, après le retour de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Paris en juin 91. Ils étaient accompagnés par Barnave, une rencontre qui a marqué un tournant dans la vie de cet homme. La revue de texte, Stéphanie Lenkin.
Oui, incontestablement, hein, c'est dans la voiture qui les ramène de Varennes à Paris qu'un lien s'est établi entre la reine et Barnave. Alors la première femme de chambre de Marie-Antoinette, Madame Campan, le dit bien dans ses mémoires. Nous sommes donc quelques jours après le retour à Paris. La reine m'étonnait de plus en plus par la chaleur avec laquelle elle justifiait l'opinion favorable qu'elle avait conçue de Barnave. Alors elle me dit que sa conduite, en route, avait été parfaite, tandis que la rudesse républicaine de Pétion, l'autre député donc chargé de ramener la famille royale, avait été outrageante. Qu'il mangeait, buvait dans la berline du roi avec malpropreté, jetant les os de volaille par la portière, au risque de les envoyer jusque sur le visage du roi, et que Barnave en avait été révolté. Barnave va même avoir l'occasion de montrer sa bravoure. Sur la route, un curé de campagne qui s'approche de la voiture royale et la bénit est sur le point de se faire écharper par la foule hostile quand Barnave intervient. « Tigre, leur dit-il, avez-vous cessé d'être français, nation de braves? Êtes-vous devenu un peuple d'assassins ?» En Barnave, en prononçant ces mots, dit Madame Campan, s'était jeté presque hors de la portière, et Madame Élisabeth, la sœur du roi elle-même, touchée de ce noble élan, le retenait par la basque de son habit. Une incongruité qui fait dire à la reine que dans les moments des plus grandes crises, les contrastes les plus bizarres la frappaient toujours. Dans les auberges où ils s'arrêtent, Barnave et la reine vont se mettre à parler de politique. Celui-ci, raconte Madame Campan, parla beaucoup des faux des royalistes dans la Révolution et dit qu'il avait trouvé les intérêts de la cour si mal défendus qu'il avait été tenté plusieurs fois d'aller lui offrir un athlète courageux qui connut l'esprit du siècle et celui de la nation. La reine lui demanda quels auraient été les moyens qu'il lui aurait conseillé d'employer. « La popularité, madame, » répond-il. Alors Barnave, par la suite, va écrire beaucoup à Marie-Antoinette. Dans ses lettres, raconte Madame Campan, il lui disait qu'elle était trop en défiance sur les forces qui restaient au parti constitutionnel, que le mot « constitution » retrouverait sa force si le roi et ses amis s'y ralliaient de bonne foi. Alors plus tard, en janvier 92, Barnave, voyant que la reine n'adopte aucun de ses avis et préfère le parti de l'étranger, Il lui assure qu'elle court ainsi sa perte. « Je désire ardemment me tromper dans une si terrible prédiction, lui dit-il, mais je suis bien sûr de payer de ma tête l'intérêt que vos malheurs m'ont inspiré et les services que j'ai voulu vous rendre. Je demande pour toute récompense l'honneur de baiser votre main. »
Étonnant ces témoignages et puis ce courrier aussi, ces lettres de Pierre de Marzite, ces lettres de Barnave à Marie-Antoinette, d'ailleurs qui vont lui coûter cher puisqu'on va les retrouver dans l'armoire de fer, c'est-à-dire cette armoire où Marie-Antoinette et Louis XVI avaient mis leur correspondance, et ça va servir ensuite à accuser Barnave et à le condamner à mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ce révolutionnaire de la première heure, brusquement, est devenu, sa demande, on le voit bien, le conseiller de la reine? On a dit qu'il était amoureux d'elle.
Ça, c'est peut-être un petit peu exagéré. Oui, on dit effectivement qu'on a découvert, après sa mort, un morceau du tissu d'une robe de Marie-Antoinette qu'il avait gardée auprès de lui. Bon, non, je ne pense pas qu'il était amoureux. Ceci dit, il a rendu un petit peu Axel de Fersen, qui était le favori de la reine, il a rendu un peu Axel de Fersen jaloux.
Mmh. Et pas Louis XVI.
Je ne crois pas. Il est pas trop là, lui. Hein.
Bon, en tout cas, tout se passe, ce basculement se produit au moment justement où il est avec la reine et avec le roi dans la voiture qui les ramène à Paris, et tout de suite il va proposer ses services. En quoi est-ce que ça consistait? D'abord, il faut rappeler qu'au fond, il remplace Mirabeau. Vous l'avez dit, Mirabeau est mort quelques mois plus tôt, et il n'y a plus que Barnave maintenant pour faire ce travail.
C'est vrai, il ambitionne de jouer le rôle de conseiller secret à la place de Mirabeau qui est mort trois mois avant. Et il propose en fait de conseiller la reine, de devenir un peu, je dirais, un conseiller en communication. Parce que pendant le retour dans la berline, qui a duré trois jours, il a été frappé par la personnalité de la reine. Il n'imaginait pas comme ça. Et il s'est dit, au fond, le peuple ne la connaît pas. Donc il faut mieux vous connaître. Et il lui propose pratiquement un programme de sortie pour qu'on la voit, pour qu'on la comprenne et qu'elle soit plus populaire.
On dirait aujourd'hui un peu son conseiller d'être son conseiller en communication.
Ah, absolument, hein. C'est vraiment ce rôle qu'il joue.
Alors cela dit, c'est avec une idée bien précise, c'est-à-dire faire en sorte que la reine aussi accepte cette constitution qui est sur le point d'être achevée.
Tout à fait, c'est pour mettre en place ce régime constitutionnel qu'il appelle de ses voeux. Mais la reine, qui n'est pas habituée à cela, est très réticente. Mmh. Et elle demande entre-temps d'autres conseils.
Oui, mais elle joue un peu double jeu, Pierre de Marzite. Hein. On sent bien qu'elle va, qu'en même temps, elle a une correspondance très très suivie avec sa famille, en Autriche par exemple. Et on sent bien qu'au fond, elle utilise Barnave plus qu'elle ne l'écoute.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Pendant qu'elle consulte Barnave, elle correspond avec Mercier Argenteau, l'ambassadeur d'Autriche qui est à Bruxelles, et avec Axel de Fersen. Mmh. Et elle incite en fait son frère, l'empereur d'Autriche, à faire la guerre à la France.
Oui, alors justement, Barnave, lui, fait partie des personnes qui ne la souhaitent pas. Il faut rappeler que le roi et la reine souhaitent la guerre, parce qu'au fond, s'il y a guerre et qu'elle est gagnée par la France, ce sera leur guerre. Si elle est perdue, c'est l'Autriche qui va restaurer la monarchie absolue. Donc en fait, c'est vrai que le couple royal a intérêt à la guerre, et la guerre se déclenche. Alors Barnave, à ce moment-là, n'est plus député, il sent bien qu'il n'est plus écouté, et il rentre à Grenoble, il va passer plusieurs mois, les derniers mois de sa vie à Grenoble, et lorsque, à Paris, le 10 juillet 1792, la monarchie est renversée, alors là, on découvre l'armoire de fer, on découvre la correspondance, et Barnave est arrêté à Grenoble, ramené à Paris et guillotiné.
Oui, oui, oui. Il est guillotiné 15 jours après la reine. Le 31 octobre 1793, la reine a été guillotinée le 16 octobre.
Et là, on est dans la terreur, hein, maintenant, et c'est la fin de Barnave. Alors, ce qu'il y a de triste un petit peu, Pierre de Marzite, et heureusement que votre livre a été publié, c'est qu'au fond, on voit le nom de Barnave nulle part. Là, on vient d'en parler, vous venez d'insister sur son importance. Comment se fait-il qu'on ait pu oublier ce personnage qui a vraiment joué un rôle essentiel au début? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est vrai qu'il y a un historien qui dit qu'il n'y a aucune rue Barnave, par exemple, à Paris. Il n'y a pas non plus de rue Robespierre, mais Robespierre n'a pas laissé un très bon souvenir. Si vous allez à Grenoble, en revanche, vous en trouvez plusieurs. Ah oui. Ça, c'est normal, parce que, on l'a pas dit, mais Barnave est originaire de Grenoble et du Dauphiné. Mmh. Moi, je pense aussi que la Troisième République a joué, parce qu'en fait, Barnave n'était pas favorable à l'idée d'une République en France, et les historiens de cette époque l'ont rejeté, notamment l'école socialiste de Mathiès, de Soboul, qui étaient les grands historiens. En revanche, il a été pleinement réhabilité récemment par François Furet, au moment du bicentenaire de la Révolution, qui lui donne, au contraire, lui accorde une importance vraiment considérable.
Mais les historiens peut-être, mais il n'est pas connu du grand public.
il reste quand même connu par cette ce rôle de conseiller secret auprès de la reine. Mais si vous voulez, il est passé parce qu'évidemment c'est pas lui qui a terminé la révolution. On pense plus à un Fouché qui lui s'est terré à Talleyrand, qui ont été les taupes de la révolution pendant la Terreur, qui ont ressurgi après. En allant à Grenoble, c'est ce qu'il aurait espéré, ressurgir plus tard pour revenir pendant la période napoléonienne, par exemple.
Eh bien, écoutez, vous l'avez fait ressurgir aujourd'hui, Pierre Damarzit, et puis vous l'avez fait ressurgir aussi dans votre livre, Barnave, le conseiller secret de Marie-Antoinette, un livre qui a reçu le prix Louis Marin 2001 et qui a été publié aux éditions du Sémaphore. Vous avez pu entendre les extraits des films La Nuit de Varennes d'Ettore Scola et La Révolution française, les années lumières de Robert Enrico. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Darrigade, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
De la semaine prochaine, lundi, la grande rivale d'Athènes, Sparte. Mardi, le portrait d'un cinéaste, de Fritz Lang. Mercredi, jour de réveillon, une histoire du foie gras. Jeudi, jour de Noël, la Palestine au temps de Jésus. Et enfin, vendredi, un célèbre procès de la guerre froide, l'affaire Kravchenko. Il est 14h30 sur France Inter. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, je vous laisse en excellente compagnie avec Chris.
Merci Patrice Gélinet et à lundi. Alors comme vous le savez, depuis hier, nous rediffusons le portrait de Martine Mauléon qui a quitté cette ville il y a quelques jours. Martine Mauléon.